Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Guillaume Ménard, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade et Léa Sabourin. À la réalisation, Émilie Valla, prise de son, Jordan Fuentes.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Deuxième jour de notre série consacrée aux économies de l'Antiquité. Après avoir sillonné hier la Mésopotamie au temps du roi Hammurabi, c'est en Égypte ancienne que notre périple se poursuit. Durant trois millénaires, une économie agricole s'est inventée sur les bords du Nil, économie longtemps éclipsée par la grande histoire des pharaons. Le manque de témoignages sur le quotidien des Égyptiens a conduit de nombreux égyptologues à surestimer le rôle de la monarchie et à parler d'un état-providence avant la lettre. Or, peut-on vraiment parler d'une économie dirigée au temps de Ramsès et d'Amenhotep ? Quel rôle les échanges locaux et internationaux ont-ils joué dans la prospérité de la civilisation égyptienne ? Voilà les questions qui vont nous occuper jusqu'à 15h. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons nous glisser dans la vie quotidienne des anciens Égyptiens en compagnie de Damien Agut-Laborder, égyptologue et épigraphiste, chargé de conférences à l'EHESS et co-auteur de L'Égypte des pharaons, de Narmer à Dioclétien, paru aux éditions Belin. En fin d'émission, Arjuna Andrade sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Bonjour Damien Agut-Laborder.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors l'histoire économique et sociale de l'Égypte antique, comme je le disais en introduction, semble être un domaine encore peu exploré par les égyptologues. Vous diriez que c'est un impensé ?
Alors c'est un impensé, oui, parce qu'on a surtout l'égyptologie dans notre esprit, c'est avant tout l'histoire religieuse, l'histoire mythique, l'histoire symbolique, et on a eu du mal à se dire qu'on pouvait penser l'économie des pharaons. Les économies des pharaons en réalité, parce que comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, on a 3000 ans. 3000 ans, c'est gigantesque. Si on le resitue dans notre continuum, nous sommes en 2019, 3000 ans, ça nous place en 1000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment de l'âge du bronze. Donc imaginons toutes les transformations que nos sociétés ont subies depuis l'âge du bronze. Et nous sommes en réalité, en Égypte, face au même phénomène de transformation profonde des de la société et de l'économie.
Est-ce que c'est lié au manque de traces, de témoignages, notamment Damien Agut-Laborder ?
Alors c'est pas lié à un manque de traces ou de témoignages. En réalité, même la personne qui travaille sur l'Égypte, l'égyptologue, est là-dessus est vernie par rapport à ses autres collègues. Pour une raison qui est très simple, c'est que l'Égypte a un climat sec et la sécheresse du climat fait que les restes organiques, alors c'est pour ça que nous avons des papyrus notamment, se conservent avec une précision, avec un état de conservation absolument formidable. Un collègue américain a une jolie expression pour qualifier ça, il dit que l'Égypte c'est une éprouvette bouchée. Si je travaille avec des collègues qui travaillent sur l'âge du fer en Europe, donc sur les Gaulois par exemple, eux ils ont beaucoup moins de chance. Parce qu'avec la pluie, les restes organiques sont détruits.
Sauf que ce ne sont peut-être pas les documents qui font état justement de l'organisation économique et sociale de l'Égypte antique qui sont restés. À ce propos, je vous propose d'écouter l'égyptologue et directeur de recherche au CNRS, Juan Carlos Morena Garcia.
Une des particularités de l'égyptologie, c'est une discipline qui a été toujours focalisée sur l'archéologie des beaux objets et surtout des aspects spirituels. Si on voudrait être vraiment très, très réductif, on pourrait dire que l'égyptologie, pendant très longtemps, était centrée sur une espèce d'archéologie et spectacle. Mais c'est vrai aussi que c'est une contrainte qui a été imposée sur les égyptologues depuis un siècle et demi. C'est-à-dire que l'Égypte, malheureusement, faisait partie du jeu géopolitique de l'époque. Et donc, parfois, les institutions archéologiques étaient au centre de ce type de lutte entre les pays. Donc, il y avait une véritable concurrence pour prendre les droits de fouilles sur des sites particuliers. Pour continuer à recevoir des financements, il fallait vraiment faire des découvertes spectaculaires. Donc finalement, c'était une espèce de mouvement qui est devenu une espèce de cercle vicieux.
Ce sont les recherches archéologiques les plus spectaculaires qui ont capté l'essentiel des financements. C'est aussi ce qui explique qu'on en sache si peu aujourd'hui sur l'économie égyptienne.
Effectivement, l'analyse de Juan Carlos est tout à fait juste. Ce qu'on a cherché en Égypte, avant tout, on a été guidé par les édifices en pierre. C'est vraiment la pierre qui nous a marqué. Et c'est très intéressant ça parce que qu'est-ce que les Égyptiens font en pierre ? Ils font des temples, ils font des tombes. Les maisons, les palais, les entrepôts sont en briques crues. Donc si vous vous focalisez sur la pierre, par nécessité, vous allez avoir des données économiques. Les temples sont des agents économiques. Mmh. Mais vous aurez les éléments d'une certaine économie. L'économie autour du funéraire, l'économie autour des temples, mais l'économie villageoise, par exemple, va vous échapper totalement parce que le village est en brique crue. Et le problème dans cette affaire-là, c'est que nous sommes dans une économie rurale. Comment faire de l'économie rurale sans village ?
Alors c'est comme ça que s'est créé le mythe d'un État-providence, avec cette idée que le pharaon veillait à la prospérité de ses sujets grâce aux rations distribuées aux travailleurs.
Voilà, et cette idée-là qui court, comment elle s'est créée, en faire la genèse, c'est assez difficile. Il faudrait faire vraiment un travail qui ne serait pas un travail en fait, d'historien, d'égyptologue, qui serait un travail vraiment d'historien du temps présent, des mentalités contemporaines. On est arrivé avec un mythe, qui est un mythe que vous trouvez très bien formulé par le philosophe Hegel, qui dit qu'on est dans des sociétés asiatiques, les despotismes asiatiques. Donc l'Égypte est dans ce tas-là de sociétés où il y a un centre qui commande tout le reste. Bon. Et quelque part, cette théorie, on l'a vérifiée par la manière dont on a fouillé, parce qu'on s'est avant tout intéressé à la pierre, je disais tout à l'heure, et aux inscriptions hiéroglyphiques. Mmh. Or, que sont les inscriptions hiéroglyphiques ? Ce sont les écrits commémoratifs du pouvoir, dans lequel le pouvoir se présente. Et quand un pouvoir se présente, il ne se montre jamais ses faiblesses. Il vous dit toujours « j'ai distribué, j'ai redonné, j'ai produit, j'ai emmené la prospérité ». Et c'est, je dirais que cette rencontre entre cet attendu des sociétés asiatiques ou africaines ou antiques, en disant « ce sont des sociétés très centralisées », et les sources qu'on est allé chercher, a provoqué l'illusion de ce mythe, enfin qui est un mythe à mon sens, d'une société complètement centralisée et administrée par l'État.
Et cette thèse de l'État-providence s'appuyait aussi sur l'existence d'une administration très développée et aussi cette idée que l'État aurait peut-être créé le système d'irrigation qui a permis la prospérité du pays.
Alors, il y a deux choses qui sont un petit peu différentes, qui est l'administration elle-même, la vision que nous avons de l'administration égyptienne. Pour les deux premiers millénaires de l'histoire égyptienne, nous la faisons essentiellement, cette histoire administrative, avec des inscriptions sur pierre, laissées par les administrateurs, souvent dans leurs monuments funéraires. Or, que dit un administrateur dans un monument funéraire ? Il se met en avant et il vous montre un état de fonctionnement parfait de l'administration, forcément, puisqu'il en est à la tête. Mmh. Quand vous passez au premier millénaire et que vous commencez à avoir des papyrus, c'est-à-dire les documents du quotidien de ces administrations. Là, vous vous rendez compte que c'est beaucoup moins ordonné, beaucoup moins clair, beaucoup plus informel que ça ne l'était avant. Donc, tant que vous restez sur les deux premiers millénaires, vous avez cette illusion de performance, de parfaite organisation, de parfaite régulation de l'économie. Dès que vous repassez au premier, vous vous rendez compte que, eh ben, en réalité, c'est une économie. L'administration était relativement, souvent fonctionnait assez mal, et surtout, elle ne gérait pas la totalité. Loin de là, les ressources produites.
On va revenir sur la question du système d'irrigation. Mais avant cela, ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'il y avait véritablement une paysannerie aisée dans l'Égypte ancienne, Damien Gutlin-Bordère. Et c'est notamment ce que nous apprend la correspondance des Canartés au tout début du deuxième millénaire.
Voilà, alors ça c'est une source extraordinaire, c'est une correspondance d'un gros propriétaire terrien qui a été découverte par hasard dans une tombe, qui nous montre comment fonctionnait un domaine agricole. Et donc on se rend compte qu'on a, dès la fin du troisième millénaire, mais je suis convaincu que nous en avons bien avant, c'est juste un manque de sources, des grands domaines agricoles, privés ou semi-privés, ou des fois des donnés par le roi et puis repris, mais qui sont gérés comme des biens propres et pas du tout intégré dans une économie royale.
Alors on avait cette vision d'une paysannerie laborieuse. Est-ce que cette vision, elle est révélatrice d'une pensée économique conservatrice, pensée qui a perduré jusqu'au milieu du XXe siècle ?
Alors oui, il y a une idée que le paysan égyptien, c'est un fellah, c'est-à-dire qu'il obéit à son maître en le craignant. Bon, quand on fait de l'archéologie rurale en Égypte, qu'on travaille vraiment sur des sites ruraux, il y en a quelques-uns malgré tout aujourd'hui qui sont assez bien fouillés, on se rend compte en fait que les communautés rurales avaient une très grande marge de manœuvre dans le choix de leur production, dans leur capacité d'innovation, dans leur capacité aussi à soustraire des produits à l'impôt. Donc l'image d'une société rurale qui serait à la remorque et en attente des ordres de l'État pour agir est une illusion. Et en cela, on vérifie les travaux de sociologues par exemple, comme Henri Mandras qui ont étudié les sociétés rurales à travers le monde et qui vous montrent toujours que les sociétés rurales sont des sociétés où, à l'intérieur du village, il y a une très grande capacité d'initiative. Et l'Égypte, le village égyptien, n'échappe pas à cette réalité-là.
Et donc, ce qu'on réalise, c'est que le commerce privé, en réalité, existait, alors même qu'on pouvait avoir une vision d'un commerce privé quasiment inexistant.
Mais l'essentiel des échanges commerciaux échappait à l'administration. Mais si vous, encore une fois, tout est dans le choix de la source que vous privilégiez. Si vous privilégiez l'écrit, si vous recherchez les traces écrites du commerce, qui fabrique de l'écrit dans le cadre commercial? Ce sont les administrations. Bon. Si vous, par contre, si vous travaillez sur les circulations de céramique, les conteneurs qui contiennent du vin, de l'huile, des produits qui circulent, là, vous vous rendez compte que les circuits sont beaucoup plus étendus, beaucoup plus vastes, beaucoup plus informels que simplement en choisissant le marqueur de l'écrit.
Et c'est pour ça que les découvertes archéologiques, par exemple, de navires marchands naufragés est essentielle, ou alors des textes qui évoquent des versements fiscaux. Ça, ce sont des sources essentielles pour comprendre l'économie de l'Égypte antique.
Ce sont des sources absolument capitales. Il y a une archéologie aujourd'hui qui est en plein essor et qui est très, très importante. C'est l'archéologie des déserts aussi, où on va fouiller des campements. On va fouiller des sites où, par lesquels les caravanes passaient. Et donc là, on retrouve, on sait qu'ils passent par les marqueurs céramiques, par le type de céramique qu'on trouve. Par chance, quelquefois, on retrouve des traces de produits aussi de circulation. Mais aujourd'hui, des cartes sont en train d'être construites de circulation des produits qui déborde très très largement le cadre égyptien.
Vous l'avez dit, la civilisation égyptienne s'étend sur 3 millénaires. Alors peut-être qu'il faut d'abord commencer par essayer de penser cette chronologie. Est-ce que selon vous, il faut passer par un découpage par dynastie et par période intermédiaire, qui est le découpage habituel?
Je dirais que ça dépend ce qu'on veut faire. Voilà, un découpage chronologique, il s'impose pas comme une vérité révélée. Il est le choix de l'historien et de sa thématique. Si on veut travailler sur l'histoire politique, pourquoi pas? On va pas en discuter parce que ça nous amènerait trop loin, mais pourquoi pas? Par contre, si on veut travailler sur de l'histoire économique et sociale, certainement pas. Ça n'est pas parce que vous avez un État fort, c'est ce que les égyptologues appellent un empire, que vous avez nécessairement de la prospérité.
Alors que l'État fort permet aux arts, par exemple, de s'épanouir. Donc si on observe la question artistique, là, ce découpage chronologique se justifie.
Exactement, exactement. Et vous pouvez par contre avoir des moments où l'art que vous verrez dans les musées sera extrêmement pauvre, mais les sites archéologiques correspondants sont extrêmement prospères.
Alors ce qu'on pourrait faire, est-ce que vous nous proposiez pour préparer cette émission, Damien Agut-Laborder, c'est de découper cette chronologie par millénaire, et peut-être d'abord on pourrait commencer par caractériser le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il caractérise?
Alors le 3e millénaire, si on veut le caractériser à la hache, c'est une période où vous avez déjà, il faut penser aussi en termes de démographie, une occupation de l'espace nilotique qui est très faible. On ne sait pas exactement, mais c'est quelques centaines de milliers d'habitants. Donc sur un territoire de plus de 1000 km de long, vous n'avez pas du tout l'aspect de l'Égypte d'aujourd'hui. Vous avez des pics, des petites villes, des petits villages qui mitent comme ça le cours du Nil. L'économie, à ce moment-là, ce que nous en savons, si on parle de l'économie royale, le roi va chercher à s'installer à travers des domaines qu'il va créer à travers le pays. Et ces domaines, qui sont des domaines à la fois agricoles, mais aussi des domaines de chasse et de pêche, va concentrer des ressources et permettre de créer des points d'administration. Ça, c'est vraiment l'économie du 3e millénaire. Pour l'économie des villages au 3e millénaire, aujourd'hui, nous sommes dans l'économie que vous pourriez qualifier de privée. Nous avons très, très peu de sources pour cette époque-là.
Et alors après, il y a le 2e millénaire qu'on pourrait qualifier. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Damien Agut-Laborder, où se situe géographiquement le pouvoir? Est-ce que c'est un pouvoir qui est centralisé au 3e millénaire, puis au 2e millénaire?
Alors c'est un pouvoir qui a un centre, très clairement. Au 3e millénaire, c'est essentiellement la ville de Memphis, qui est au sud du Caire aujourd'hui, dans le nord. C'est un pouvoir qui a un centre, mais attention à cela, c'est un pouvoir qui, dans la gestion, est obligatoirement décentralisé. Nous sommes à l'âge du bronze. C'est-à-dire, vous n'avez pas la capacité de transporter toutes les récoltes, par exemple, vers le centre. Donc, vous êtes obligé d'avoir une gestion locale. D'où l'efficacité de ces domaines royaux installés un peu partout dans le pays, qui permettent, à travers la production, d'avoir une administration, une petite armée locale, un contrôle local.
Mais du coup, le pouvoir égyptien s'incarne dans différentes cités selon les dynasties et les intérêts locaux au cours de l'histoire égyptienne.
Au cours de l'histoire égyptienne, nécessairement, le pouvoir égyptien évolue, se déplace géographiquement parce que l'Égypte est à la croisée de plusieurs mondes. Le monde africain, le monde libyen, le monde méditerranéen et le monde asiatique. Donc vous vous retrouvez en fonction de l'endroit où l'Égypte agit. Si elle agit plutôt côté africain, vous aurez plutôt la capitale à Thèbes, dans le sud. Et si elle agit vers le monde méditerranéen, voilà. Si elle agit vers le monde méditerranéen, là, vous aurez une remontée de la capitale au nord. D'où cette alternance de capitale que les Égyptiens appelaient joliment la balance des deux terres.
Et alors, la période du 2e millénaire correspond à une expansion du pouvoir central?
Alors, le 2e millénaire est un phénomène. C'est une période la plus emblématique de l'histoire égyptienne. C'est la période de Toutankhamon. C'est la période impériale. C'est-à-dire que là, vous avez très clairement l'Égypte, d'abord qui échoue et puis qui ensuite réussit à faire un empire qui s'étend sur le Levant actuel et jusqu'à la ville de Khartoum à peu près aujourd'hui. Économie impériale, ça veut dire que vous allez faire venir vers le centre d'énormes quantités de richesses mobiles, des métaux précieux notamment. Mmh. Et là, vous allez avoir la création d'une cour, d'une nouvelle capitale, même à un moment précis, et une gestion complètement différente, parce que là, vous êtes sur une économie de la prédation des populations que vous avez soumis dans le cadre impérial.
Alors que le premier millénaire, si l'on finit cette histoire un peu hâtive, mais qui nous permet de poser un peu les cadres, le premier millénaire correspond à une période davantage de déclin, parce que l'Égypte se confronte alors aux autres empires.
Alors, dans le bouquin, on a eu cette idée, enfin cette hypothèse de dire que l'Égypte en fait est un incubateur politique, c'est-à-dire qu'elle fabrique très tôt une monarchie, elle fabrique plus tôt que les autres un empire, mais sur la durée, elle sera dépassée au premier millénaire par d'autres grands empires, l'empire assyrien, puis l'empire perse, qui ont pour siège le Moyen-Orient actuel. Et là, c'est vrai qu'au premier millénaire, l'Égypte passe sous domination impériale de différents empires. Elle décroît, si vous voulez, sur le plan géopolitique, elle perd de son importance. Par contre, c'est le moment où nous avons une quantité de sources pour l'histoire économique et sociale qui est, à mon sens, inégalée dans le monde ancien.
Donc c'est la vision la plus précise que l'on a de l'économie égyptienne.
Oui, on ne peut pas. Je crois qu'il n'y a aucune démographie, sociologie, économie que l'on puisse documenter pour des stades aussi anciens que nous pouvons le faire en Égypte.
Alors ce sont des documents qui vont nous aider et qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans la description de cette économie de l'Égypte ancienne. Et d'abord, ce qu'il faut évidemment dire, c'est que le Nil est au cœur de cette économie. C'est ce que nous explique l'écrivain et avocat François Sureau.
Des auteurs de l'ancienne Égypte jusqu'au latin, la source du Nil demeurait mystérieuse. J'ai retrouvé un quatrain de Lucain, un célèbre poète latin qui dit, je ne vais pas vous le citer en latin naturellement, mais qui dit « La nature a jeté sur ta source un voile que personne ne peut lever ». Et en fait, les pharaons ne se souciaient pas de lever le voile, ça n'était pas des découvreurs. Ils prenaient le monde pour une donnée et la fertilité du Nil comme un don de Dieu. Alors le Dieu adéquat, le Dieu qui nourrissait l'Égypte et qui lui assurait la vie présente et la survie future, c'était le Dieu Hapi, qui contrôlait le cours du Nil conjointement avec le pharaon. Il y avait une sorte d'association d'un pharaon dieu et du dieu Hapi pour procurer à l'Égypte la fertilité et l'abondance des récoltes.
Le Nil a joué un rôle absolument essentiel dans le développement de la civilisation égyptienne, c'est peu de le dire, Damien Gutlamander.
Ah oui, on est obligé de le dire, hein. ça n'a pas de sens. Là, il suffit simplement, encore une fois, d'ouvrir un atlas. Le Nil traverse le Sahara de part en part. C'est le seul fleuve qui traverse ce grand désert de part en part. De sorte qu'il fabrique quelque chose qui est assez étrange sur le plan géographique, parce qu'il fabrique à la fois un paysage fluvial, que les archéologues ou les historiens sont habitués à traiter, mais un paysage fluvial oasien. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous écarter des berges du fleuve. Donc vous avez à la fois une organisation nécessairement qui est centrée sur le Nil. Et pour nous, encore une fois, c'est une chance extraordinaire parce que vous concentrez la population. Pour l'archéologue, c'est une chance.
Et c'est lié, pardon de vous interrompre, au fait que l'Égypte est devenue progressivement hyper aride entre 4400 et 3300 avant Jésus-Christ.
Voilà, on a une phase, alors 3300, c'est très difficile de dire quand est-ce que ça s'arrête, ces phénomènes-là d'hyper-aridité. Vous avez un phénomène de recul de la mousson. C'est-à-dire que la mousson qui remontait dans le Sahara, très largement, la mousson de l'océan Indien, va petit à petit cesser de remonter. Et donc, ce paysage saharien qui se présentait comme une espèce de savane avec des lacs, encore presque au troisième millénaire, à l'époque des pyramides, vous aviez encore ces traces-là, vous trouviez des hyènes, des choses comme ça, va petit à petit céder la place au désert que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, ramener les hommes vers le Nil. Une des théories aujourd'hui pour expliquer la naissance de l'État en Égypte ancienne, c'est de dire que c'est la concentration de cette population rabattu vers le Nil par la sécheresse, qui a obligé les hommes à complexifier leur organisation politique.
Concentration de population, qu'il est évidemment extrêmement compliqué de connaître l'ampleur de cette concentration. Non, oui. Il y a énormément de théories et de travaux différents qui ont parlé de plusieurs millions de personnes qui auraient habité ces rives, mais en réalité, on a beaucoup de mal à savoir.
Alors, on a beaucoup de mal à savoir. Maintenant, il y a des données sur lesquelles nous sommes fermes. Notamment pour l'époque hellénistique, c'est-à-dire Alors là, c'est très récent par rapport à... Il y a juste 2300 ans, c'est-à-dire à l'époque d'Alexandre le Grand, grosso modo, 3e siècle avant Jésus-Christ. Et pour l'époque romaine, là, nous avons des recensements fiscaux qui sont très précis, qui nous permettent d'avoir des échantillons de population sur lesquels, quand on fait de la statistique, on retrouve des morphologies de population normale. Par exemple, si vous faites les sex ratios, des choses comme ça, vous retrouvez des morphologies de population. Donc on sait que ces échantillons sont représentatifs. Donc en extrapolant par rapport à ces échantillons, on sait qu'on est autour de 5 millions d'habitants.
En 300 avant Jésus-Christ.
En 300, entre 300 et 200. Mmh. Voilà. On sait qu'on est par là.
Alors qu'un millénaire plus tôt, il y a différentes estimations qui vont de 1,5 million voilà. à 7 millions au deuxième millénaire avant Jésus-Christ.
Avant, il est impossible de donner de chiffres aussi sérieux. Là, on est dans l'impressionnisme.
Alors évidemment, le Nil est essentiel, mais pour autant, est-ce qu'il faut considérer, Damien Agut-Laborder, que la civilisation égyptienne doit tout à son fleuve, que véritablement, que rien n'aurait été possible sans le Nil ?
Oui, ça, rien n'aurait été possible sans le Nil, c'est une chose absolument certaine. Il n'y a qu'à faire une demi-heure de 4x4 dans le désert à droite ou à gauche pour comprendre ce qu'est un désert hurlant. Mmh. Donc il n'y a pas de possibilité de faire autre chose sans le Nil. Maintenant, le Nil a d'autres effets que simplement l'effet d'irrigation. Il a un effet aussi de couloir, c'est-à-dire qu'il permet de relier l'Afrique au monde méditerranéen. Et quand vous êtes au delta oriental, vous n'êtes pas très très loin de la Palestine, donc au continent asiatique. Et là, c'est une chose qui est très simple à faire. Vous prenez un atlas, vous ouvrez, et vous vous rendez compte que l'Égypte est à la rencontre des deux plus grandes masses de l'ancien monde. La masse africaine et la masse eurasiatique. Et c'est le seul endroit du monde où ces deux masses continentales sont en contact.
D'où l'idée que c'est un territoire qui, en réalité, a eu énormément de contacts et d'échanges avec d'autres populations, contrairement à ce qu'on pense en général.
Nécessairement, il ne peut pas en être autrement que des contacts. Mais c'est là où on tient le paradoxe de l'Égypte, c'est que nous avons une certaine fixité des formes plastiques, illustré exposition après exposition. Mais quand vous allez voir derrière le masque, ben vous vous rendez compte que les choses sont beaucoup plus mobiles et changeantes en réalité.
Alors revenons sur les bords du Nil, le fleuve qui est tantôt bienfaiteur, tantôt hostile.
Le fleuve, il offre sur ses rives, c'est bien et c'est mal, des terres qui sont limoneuses, qui sont planes, et qui donc sont fertiles et se prêtent magnifiquement à la culture. La ville s'installe au bord du fleuve, elle va trouver des champs en proximité, elle peut faire venir des marchandises, mais le tout est périodiquement ravagé par une colère du fleuve. Donc le fleuve est mauvais. Alors est-il bon, est-il méchant ? Eh bien, j'ai rarement vu que les hommes quittent les rives du fleuve jugées trop dangereuses. Ce qu'ils font par contre, c'est qu'ils essayent de contenir le fleuve toujours de la même façon, par des digues, et que ce sont ces digues qui posent, à travers les âges, des problèmes aussi bien d'ordre historique ancien que des problèmes d'écologie moderne.
Voilà, on entendait le géographe Jacques Bettemont sur France Culture le 1er janvier 1991. Les anciens Égyptiens vont essayer tant bien que mal de maîtriser le fleuve à travers divers procédés. C'est quelque chose qui va traverser toute l'histoire de l'Égypte antique.
Alors ça traverse toute l'histoire et c'est un point important que nous n'avons pas tout à fait eu le temps d'approfondir tout à l'heure. Parce que non seulement le Nil, vous avez le phénomène de la crue, c'est-à-dire qu'il déborde et il rentre dans son lit. Mais ça n'est le schéma qu'on a tous à l'esprit dans le livre de 6e ne marche pas en réalité. C'est-à-dire le Nil ne rentre jamais exactement de la même façon. Parce que pendant la crue, le lit s'est réaménagé. Donc chaque année, les terroirs agricoles sont réaménagés par le Nil. Et maintenant nous le savons parce que nous faisons des travaux de géoarchéologie où nous voyons le Nil divaguer, mais même à l'intérieur des villes. C'est la ville de Memphis, la capitale dynastique, vous voyez le Nil se déplacer à l'intérieur de la capitale.
Ça exige donc un travail considérable de réaménagement.
De réaménagement et surtout une connaissance extrêmement fine. Mais quand je dis fine, c'est-à-dire aux dizaines de mètres près, du terroir agricole sur lequel vous travaillez. C'est pour cela que l'idée d'une extrême centralisation des travaux d'irrigation depuis le centre de pouvoir n'a en réalité aucun sens idéologiquement et pratiquement. Vaut mieux laisser les communautés locales faire ce travail qu'elles connaissent parce qu'elles habitent là et ensuite passer prélever l'impôt plutôt que d'inventer un espèce de ministère des travaux hydrauliques qui peut avoir son efficacité, mais il aura son efficacité si vous avez barré le Nil et si vous disposez d'engins mécaniques. Ce que les Égyptiens ne disposaient pas.
Donc la thèse selon laquelle c'est le roi et son administration qui auraient mis en place le système hydraulique est une thèse qui finalement s'est révélée fausse.
Le roi se présente comme dispensateur de prospérité, de belles récoltes, etc. Faut pas prendre tout ça au sérieux. Mmh. Voilà. Parce que concrètement, c'était un travail absolument impossible et même ça aurait été en un certain sens stupide.
Donc ce que vous dites, c'est que c'est vraiment les communautés locales qui s'en occupaient. Et alors, quelles étaient justement les techniques qui étaient mises en place pour tenter de maîtriser le fleuve ?
Alors là, nous commençons à nous heurter à une grande difficulté de l'archéologie égyptienne. Je vous dis que l'Égypte, c'est le paradis de l'archéologue, mais plus vous vous rapprochez du fleuve, plus c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que plus vous êtes près du fleuve, plus c'est remanié par la nature et par les hommes. Donc, retrouver des traces d'édifices hydrauliques, pouvoir les dater convenablement, c'est toujours assez difficile. Donc il est difficile de documenter cela par l'archéologie. Nous savons par des sources notamment papyrologiques qu'on construisait des digues, ça bien sûr, qu'on pouvait renforcer ces digues avec du cuir, qu'on pouvait par moments enrocher certaines digues pour essayer de les faire tenir, mais nous avons du mal aujourd'hui à documenter ce type de pratique par l'archéologie.
Mmh. Et ce sont quand même des techniques qui ont largement évolué, qui se sont améliorées au fur et à mesure des siècles. Et c'est intéressant de voir que ce sont des tentatives pour endiguer le fleuve qui se sont finalement conclues plusieurs millénaires plus tard, en 1970, avec la mise en service du haut barrage d'Assouan.
Le haut barrage est la conclusion logique de millénaires, de au moins 5 millénaires d'efforts des Égyptiens de maîtriser le fleuve pour faire de l'agriculture.
Oui, parce qu'en réalité, les techniques d'irrigation se sont développées en Égypte dès le néolithique.
Ben, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez faire pousser des céréales en grande surface, sur grande surface en Égypte, vous êtes obligé de vous poser la question de la gestion des eaux. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas compter sur la pluie. Donc, comme vous comptez sur la crue, vous êtes obligé de savoir comment cette crue, vous allez la retenir pour que vous ayez le dépôt limoneux qui va fertiliser votre sol et surtout après évacuer cette eau pour pouvoir planter.
Et là encore, ces techniques d'irrigation ont progressé au fur et à mesure des siècles ?
C'est assez difficile à documenter cela. En réalité, aujourd'hui, on voit des changements qualitatifs importants, par exemple à l'époque hellénistique, c'est-à-dire au 3e siècle avant Jésus-Christ, au moment où nous voyons, par exemple, la mise en place de taxes précises sur l'entretien des canaux et qui permettent de mobiliser de la main d'œuvre pour faire des grandes digues. Mais je dirais que cette amélioration, elle est plus en réalité quantitative que qualitative.
C'est-à-dire
qu'on fait des édifices plus grands, plus importants, un peu plus, mais on n'est pas dans une plus grande complexité. L'idée, de toute façon, elle est toujours assez simple.
Une plus grande efficacité.
L'efficacité, c'est toujours de barrer le Nil, avoir le dépôt et évacuer l'eau.
Alors, sur les rives du fleuve, c'est toute une société rurale qui va se mettre en place. On en parle dans un instant.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Egyptian. écoutez Walk Like an Egyptian des Bangles sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, retour en Égypte ancienne avec Damien Agutel Laborder. Alors on va parler maintenant de la vie locale et notamment de la vie économique locale bien sûr, mais aussi la vie politique locale qui s'organise autour des temples dédiés à une ou plusieurs divinités. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, Damien Agutel Laborder, c'est comment cette vie politique et économique s'organise autour des temples.
Voilà, alors il y a un point qui est important là tout de suite à dire, c'est qu'on a tous à l'esprit ce petit dessin qu'on trouvait, pas forcément dans les manuels de 6e, mais plutôt dans les livres pour enfants. Vous avez tout le panthéon égyptien qui est représenté en même temps. Vous avez la déesse Nout qui fait le ciel, Ré qui va faire le soleil. Bon, ça, c'est une invention moderne. C'est-à-dire que les Égyptiens n'ont jamais pensé leur religion en termes de panthéon. La religion égyptienne est une religion qu'on dit topique, c'est-à-dire vous êtes à Memphis, vous adorez Ptah. Vous êtes à Éléphantine, vous adorez Khnoum. Mmh. Vous êtes à Thèbes, vous adorez Amon.
Chaque temple a son panthéon.
Chaque village a son dieu, ou chaque ville a son dieu, et chaque produit son temple, avec sa statue sacrée. Et la piété se tourne vers ce dieu-là, en particulier. Ce qui signifie que l'élément fondamental et fondateur de l'identité locale égyptienne, c'est le temple et le dieu.
Mmh.
Il n'y a pas finalement, et ça c'est un point aussi assez important à souligner, il y a très peu de textes qui témoignent d'une conscience nationale égyptienne. Un Égyptien, c'est d'abord quelqu'un qui est de cette ville ou de ce village.
Et si la vie religieuse est aussi importante au niveau local, cela va effectivement dans le sens d'une vie politique et économique, puisque c'est ce qui nous intéresse, qui se passe vraiment au niveau local également.
Qui se passe au niveau local. Ben, nous sommes dans des économies, il n'y a rien à faire, on est avant 1950. Donc nous sommes dans des économies rurales, classiques, c'est-à-dire où le périmètre de vie des individus, c'est 30 km dans la paroisse, si j'emploie ce terme-là. Donc l'essentiel de la vie, du cadre de production, du cadre de référence, c'est le cadre local. Et dans ce cadre local, le temple va faire office, alors j'allais dire de premier organisme économique, c'est pas forcément le cas, mais en tous les cas va jouer un rôle absolument capital. Il a des terres, il a des troupeaux, il a des fois accès à des moyens de transport, des barges, des bateaux. Donc c'est un acteur économique extrêmement puissant localement.
Et alors dans ce contexte, comment comprendre que les pharaons vont réussir à s'imposer justement comme les médiateurs indispensables entre les dieux et les hommes, si le pouvoir local est aussi fort?
Et ça, je vous dirais que c'est le grand mystère. S'il y a un mystère en Égypte ancienne, tout du moins à mes yeux, et c'est un vrai mystère, j'ai pas de solution à vous proposer, je suis désolé, c'est cela. Et ça, c'est ce moment où le roi réussit dans les différentes villes et villages d'Égypte à s'imposer comme le premier prêtre. Mmh. Les prêtres égyptiens sont prêtres par délégation de pouvoir. C'est au nom du roi qui présente l'offrande. Le problème, c'est que cette opération de substitution entre le dieu, enfin, l'arrivée du roi entre le dieu et son prêtre se produit au début du 3e millénaire avant Jésus-Christ. À une époque, nous avons très très peu de sources pour le documenter. Donc on est obligé de le prendre comme un état de fait de civilisation qui se poursuit jusqu'au bout, jusqu'aux empereurs romains, mais on ne peut pas aller plus loin.
Alors on va écouter l'historienne Chloé Ragazzoli, pardon, qui était dans la Fabrique de l'Histoire sur France Culture.
Comme on est dans un état redistributeur, c'est un état tributaire et c'est même sa raison d'être, c'est-à-dire que une partie de la production est centralisée puis redistribuée via les grands serviteurs de l'État. L'État s'appuie sur ces grands serviteurs, mais qui sont aussi des grands dignitaires locaux, qui ont une assise dans le pays, etc., qui eux-mêmes tiennent leur pouvoir, leur statut, etc., d'un réseau, de clientèle ou d'habitants ou d'autres familles secondaires, mais avec un petit peu d'importance. Quand l'État délègue à un haut dignitaire la culture, la mise en valeur de telle région en donnant un domaine agricole, c'est une façon de rémunérer ce haut fonctionnaire qui évidemment va devoir une partie de sa récolte à son roi, à l'État, mais ce propre fonctionnaire va confier les différentes unités de ce domaine aux membres de sa clientèle. C'est un système d'affermage. Mmh. Donc c'est redistributif et c'est là qu'on a une petite idée du fonctionnement des clientèles et du rôle que jouent ces domaines privé entre guillemets dans l'approvisionnement et la gestion de la population.
Ce qu'on entend ici, c'est peut-être davantage la vision d'un pouvoir central qui serait omniprésent dans l'économie du pays. Qu'est-ce que vous pensez de cette vision ?
Qui serait omniprésent, mais à travers des domaines. C'est-à-dire à travers des domaines où, en concédant des domaines, le pouvoir central joue aussi avec les élites locales. Je suis le roi, j'ai besoin d'avoir accès politiquement à une ville, de la contrôler. J'offre un domaine à quelqu'un qui localement est puissant et à travers ce domaine, je le fais rentrer dans ma clientèle. Et lui, je lui donne ce domaine pour qu'il puisse étendre sa clientèle. Les deux visions ne sont pas nécessairement opposées. Mais je serais plus prudent, c'est sur la notion de redistribution. Encore une fois, pour une raison très simple, qui est la difficulté que nous avons à cette époque-là de déplacer des grandes quantités de biens. Et un deuxième problème fondamental que je n'ai pas abordé tout à l'heure, c'est le problème du stockage. C'est que stocker du blé ou de l'orge sans qu'il pourrisse, sans qu'il se détruise par pourrissement, est extrêmement difficile.
On n'a pas d'informations sur des techniques de stockage qui auraient pu exister à l'époque.
Il y a des travaux très importants en ce moment qui sont conduits sur le stockage des céréales. Et tout montre qu'en réalité, on préférait multiplier les petits greniers qui permettaient de centraliser des récoltes locales plutôt que d'immenses greniers qu'on pourrait attendre si on avait vraiment une société de centralisation et de redistribution.
Mais ce que l'on comprend bien, c'est que les rois avaient intérêt à ménager les temples et leurs prêtres qui étaient chargés de mettre en valeur le territoire. C'était un échange de bons procédés.
C'est un échange de bons procédés, c'est-à-dire qu'il y a la dimension locale, c'est-à-dire que les élites locales contrôlent les productions, le terroir local. Bon, si vous voulez que ces gens-là paient correctement les impôts, ne soutiennent pas des gens qui sont politiquement contre vous, il faut se débrouiller pour les faire rentrer dans votre clientèle. Alors, Chloé Ragazzoli évoque les charges dans l'administration. Au premier millénaire, notamment, vous avez aussi, le roi possède dans certains temples des prébendes, des revenus de prêtres. Et il va donner ces revenus aux gens qui, localement, acceptent de rentrer dans son jeu. Ou faire rentrer dans les temples, par le biais de ces prébendes, un de ses agents, un de ses hommes, pour qu'ils servent d'œil du roi localement. Donc il y a un jeu entre le local et le national qui est central pour comprendre ces grandes institutions égyptiennes.
Et il y avait aussi une économie qu'on pourrait appeler auto-organisée, initiée par des paysans, des artisans et des marchands, une économie par le bas en quelque sorte.
Alors ça c'est la partie la plus difficile à documenter et qui est en réalité, à mon sens, la partie la plus neuve et la plus intéressante qu'il faut aujourd'hui chercher à documenter. Pour ça, il faut pouvoir fouiller des sites qui sont des vrais sites villageois. Bon, on a la chance d'en avoir un certain nombre, enfin en fait on n'en a pas un certain nombre, on en a un en particulier qui est le site de Aïn Manawir qui est dans le désert occidental. Et là on a un véritable village au milieu du premier millénaire qui s'est alors auto-organisé. Il y a des institutions extérieures, des grands temples extérieurs qui à un moment cherchent à intervenir, mais qui a fabriqué son temple local, qui a fabriqué son terroir local, qui a fabriqué ses impôts locaux. Il paye un impôt politique au roi, toujours, mais globalement, et la quasi-totalité des actions se font, et des choix se font au niveau local.
Mais en tout cas, cette économie auto-organisée, c'est aujourd'hui le domaine dans lequel il y a le plus à découvrir aujourd'hui?
Alors, je prêche pour ma paroisse, à mon sens, oui, c'est celui qui a le plus à découvrir pour deux raisons. D'abord, sur le plan conceptuel, parce que c'est quelque chose que nous n'avons pas pensé, c'est-à-dire que nous sommes toujours sur le schéma de la redistribution, alors qu'on aménage ça à la sauce keynésienne ou à une autre sauce, on est toujours sur ce ronron, je dirais. Et il y a un deuxième élément, c'est que archéologiquement, ce sont des sites qui n'ont pas été explorés. Pourquoi ? Je reviens sur ce que je disais au début de l'émission, c'est de la brique crue. Donc, c'est pas attractif. Les sites existent, ils sont connus. Dans les oasis du désert occidental, on a des cartes. Et là, il y a un travail archéologique, site par site, extrêmement minutieux à faire, et qui permettrait de savoir comment fonctionnent ces villages égyptiens.
Et qui reste encore à faire.
Entièrement.
Alors, ce qui est important pour bien comprendre cette économie égyptienne, c'est de comprendre les échanges. Or, ce que l'on constate, c'est que l'Égypte, du 3e millénaire jusqu'à Jésus-Christ, est marquée par le manque de cuivre et d'étain qui sont nécessaires pour obtenir le bronze.
Voilà. Alors, l'Égypte est marquée par des pénuries structurelles. Alors, vous avez cité le cuivre et l'étain. J'insisterai beaucoup sur le bois, et notamment le bois d'œuvre, parce que vous êtes sur une civilisation du fleuve. Donc, civilisation
pour construire des bateaux.
Des bateaux, voilà. Et pour construire des bateaux, vous n'avez pas d'arbres qui vous permettent de faire de grandes poutres. Donc il y a une nécessité très tôt de la part des Égyptiens d'importer du bois d'œuvre, donc généralement de la Méditerranée. Donc on pense toujours au cèdre du Liban, mais en fait il y avait le pin maritime qui va aussi très bien, qu'on va faire venir de Chypre, de la Cilicie, du sud de la Turquie, en Égypte.
Et pour vous, c'est même ce manque de bois qui expliquerait la faiblesse relative de l'Égypte antique au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ?
Je pense que c'est une pénurie, c'est un véritable problème. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, à cause simplement de ce que je vous disais tout à l'heure, cette rencontre entre le fait que vous êtes organisé autour d'un fleuve et vous ne disposez pas du matériau de base qui vous permette de mettre ce fleuve en valeur de manière optimale.
Alors que pour ce qui est du bâtiment, on utilise la pierre.
Alors pour le bâtiment, on va utiliser la pierre pour certains bâtiments de prestige, mais encore une fois, la pierre, il faut l'extraire, c'est lourd, c'est compliqué. Le matériau de base en Égypte, c'est la brique crue. Ça, toutes les maisons étaient faites, les palais, même les palais de Malkata étaient faits, c'était des palais de briques crues.
Et alors la pénurie de cuivre est aussi un problème, puisque le cuivre, on l'utilise pour fabriquer des armes, des outils. Comment expliquer cette pénurie de cuivre alors qu'il y a des mines en Égypte?
Alors, c'est pas tant le cuivre qui va poser problème, c'est surtout l'étain. Pour fabriquer le bronze, cuivre plus étain égale bronze. Et là, l'étain, vous êtes obligé de le faire venir alors d'Afghanistan, par des caravanes qui arrivent au Levant. D'accord? Donc, si vous voulez vous garantir une source d'approvisionnement régulière en étain, et ça, c'est plutôt un problème du deuxième millénaire, vous êtes obligé de vous emparer du Levant. Et c'est une des raisons qui pourrait expliquer l'impérialisme égyptien. Mais je reviens une minute sur le bois. Si vous voulez faire des métaux, la métallurgie, il faut faire fondre. Et vous retombez sur le problème du bois. C'est-à-dire du bois à brûler. Vous voyez, donc la question du bois est absolument centrale.
Pour vous, le bois est le nerf de la guerre. Oui. Mais en tout cas, ce qu'on constate avec le manque de cuivre et d'étain, c'est que c'est aussi lié, enfin en particulier pour le cuivre, au fait que les mines s'épuisent et qu'elles sont aussi assez éloignées. Je pense aux mines au Sinaï. Mmh. C'est ce qui explique aussi ce manque de cuivre.
Alors, il y a une difficulté. L'aspect mine est assez compliqué à... Enfin, on va essayer de le présenter de manière assez simple. C'est que vous pouvez toujours envoyer des expéditions pour dans les déserts du Sinaï ou le désert oriental pour accéder à des minerais. Le problème d'une expédition, c'est que c'est horriblement coûteux parce qu'il faut organiser un ravitaillement en eau, en nourriture, faut avoir des gens aussi qui ont envie d'aller travailler dans ces déserts terribles. Bon, donc généralement, le pouvoir pharaonique préfère laisser faire ça aux habitants de ces déserts qui sont souvent des pasteurs, qui se livrent au pastoralisme et en même temps à l'extraction de minerais. Et simplement, quand ils viennent vendre les produits de la viande, le cuir, etc., qui produisent, vendent aussi des métaux. Ça, c'est la manière la plus simple de se procurer des métaux. Si à un moment, par contre, pour une raison militaire ou autre, vous avez besoin de très grandes quantités de métaux, vous êtes obligé de monter une expédition qui va vous ravitailler.
D'où les difficultés. Et alors, Damien Agut-Laborder, ce qu'on constate, c'est que c'est surtout la basse Égypte qui va commercer avec l'Asie centrale, avec la Méditerranée, pour se procurer le cuivre, l'étain et surtout le bois, parce que dans la haute Égypte, donc dans le sud du pays, l'une des grandes richesses, c'est l'or.
À l'extrémité de l'Égypte, entre les confins de l'Arabie et de l'Éthiopie, se trouve un endroit riche en mines d'or, d'où l'on tire ce métal à force de bras par un travail pénible et à grands frais. C'est un minerai noir, marqué de veines blanches et de taches resplendissantes. Ceux qui dirigent les travaux de ces mines emploient un très grand nombre d'ouvriers, qui sont tous ou des criminels condamnés ou des prisonniers de guerre, et même des hommes poursuivis pour de fausses accusations et incarcérés par animosité. Les rois d'Égypte forcent tous ces malheureux, et quelquefois même tous leurs parents, à travailler dans les mines. Ils réalisent ainsi la punition des condamnés, tout en retirant de grands revenus du fruit de leurs travaux. Ces malheureux, tous enchaînés, travaillent jour et nuit sans relâche. Privés de tout espoir de fuir, sous la surveillance de soldats étrangers parlant des langues différentes de l'idiome du pays, afin qu'ils ne puissent être gagnés ni par des promesses, ni par des prières.
Voilà, c'était un texte de l'historien et chroniqueur grec du 1er siècle avant Jésus-Christ, Diodore de Sicile, lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Un mot d'abord sur le regard qui est porté sur la production d'or en Égypte, Damien Agut-Laborder.
Eh ben, malheureusement, nous n'avons que cette source-là, mais il y a de fortes chances qu'elle soit vraie. Il suffit d'aller se promener dans le désert oriental égyptien pour réaliser, c'est un désert d'une aridité complète, une condition de vie extrêmement pénible, et l'or s'y présente sous deux formes. Soit l'or dont parle Agatharchide et Diodore, qui est un or en fait présent, enfermé dans les roches mêlé au quartz, donc là on va le chercher à la pique, ou alors un or qui a été, qu'on appelle alluvionnaire, qui a été déposé au fond des wadis, au fond des rivières desséchées. L'or alluvionnaire, c'est celui qu'attrapent les nomades. Ils sont tout le temps présents, donc c'est celui entre guillemets qu'ils ont ratissé pendant des millénaires.
Alors qu'il y a un or qui est récupéré par des travailleurs et aux conditions de travail apparemment difficiles, si on en croit du d'or de Sicile.
C'est épouvantable, véritablement épouvantable. Je ne me rappelle plus l'auteur qui fait une reconnaissance dans le Wadi Hammamat, un auteur égyptologue des années 30, qui rentre dans les galeries et qui dit mais ces galeries, les gens sont tellement, c'est tellement étroit, soit c'est des hommes faméliques, soit ce sont des enfants.
Voilà. Il ne faut pas juste y voir la vision d'un Grec sur l'Égypte qui veut peut-être, avoir une vision dévalorisante de...
Non, parce que c'est une condition. Encore une fois, il suffit d'aller se promener en ce moment même, je pense, dans le désert oriental pour réaliser que c'est tout à fait réaliste. Un travail très intéressant d'un collègue qui s'appelle Pierre Grandet. Et Pierre avait fait un calcul pour essayer de savoir combien il fallait extraire de tonnes de minerais pour avoir 10 grammes d'or. Il arrive à une tonne. Voilà. Quand vous avez le masque tout en camon, il fait une quinzaine de kilos. Vous comprenez la quantité de minerais qu'il a fallu abattre et moudre. Parce qu'il faut moudre et après on cuit cette farine pour faire couler l'or. Donc c'est un travail, à la fois, vous avez le travail de perforation de la roche, vous avez le travail de mouture et vous avez un travail de cuisson dans un désert, encore une fois, parfaitement aride.
Or, l'or était la principale monnaie d'échange de la Haute-Égypte. Alors, contre justement le cuivre, l'étain, le bois.
Les Égyptiens ont ces pénuries-là, mais ils ont un grand avantage, c'est qu'ils ont l'or, qui leur permet d'accéder à toutes ces richesses en Méditerranée. Donc la connexion basse et haute Égypte, elle se fait d'un point de vue économique de manière assez naturelle. Le nord a accès aux ressources, le sud a accès aux moyens de paiement. Mais cette époque-là n'aura qu'un temps. Et ça, c'est vraiment, là on est au deuxième millénaire. Au premier millénaire, c'est l'argent qui va remplacer la totalité l'or devient beaucoup plus rare, parce que là, on va se tourner vers la Méditerranée, c'est l'argent venu de la Méditerranée qui va, supporter l'économie égyptienne.
Mais c'est en tout cas comme cela que se met en place un système d'échange entre le nord et le sud et le du sud. Pays. Il y a vraiment une volonté, des besoins mutuels qui se retrouvent.
Tout à fait. Et besoins mutuels qui sont naturellement articulés par le Nil. Parce qu'effectivement, ces grands troncs, ces quantités de minerais, tous ces produits-là, vous pouvez aisément les faire descendre du nord au sud par le biais de la voie nilotique.
Et ce que vous disiez, c'est qu'on dispose de très peu de sources sur l'extraction de l'or, les conditions, mais aussi simplement peut-être sur la place des gisements aurifères.
Alors on n'avait pas beaucoup de sources, je dirais jusqu'à une trentaine d'années. Maintenant on commence à avoir des travaux de géoarchéologie très très précis où on a des cartes très très exactes de ces gisements. Et puis on a des fouilles formidables dans le désert oriental, le site de Bir Samoud qui est fouillé par Bérangère Redon et Thomas Fauché, qui est un site d'extraction de l'or de l'époque ptolémaïque, où là on a les campements, on a les sites de mouture, on documente de manière, on a même de la documentation écrite qui accompagne, donc on documente de manière très très précise ces phases d'extraction de l'or.
On disait tout à l'heure comment la présence de certains documents pouvait apporter une vision éventuellement biaisée de l'histoire. En l'occurrence, les sources les plus nombreuses dont on dispose en termes d'échanges font état d'échanges de produits de luxe, mais ce n'est pas nécessairement justement les échanges les plus réguliers, qui étaient davantage des échanges de marchandises et de biens consommables.
Les produits de luxe, excusez-moi.
Est-ce que on a beaucoup de sources qui montrent que les pharaons importaient un grand nombre de produits de luxe, mais est-ce que ces sources ne nous offrent pas une vision un petit peu biaisée, puisque les échanges les plus réguliers, ce n'étaient peut-être pas ces produits de luxe.
Nécessairement, parce que c'est sur ces sources-là c'est sur ces produits-là que vous communiquez. Quand Hatshepsut fait venir de l'encens du pays de Punt, c'est-à-dire de la région du Bab el-Mandab, elle dit « j'ai fait venir de l'encens ». Vous ne communiquez pas, même le bois, vous communiquez exclusivement sur le cèdre. Pourquoi est-ce qu'on est obsédé par le cèdre? Parce que les pharaons disent « j'ai fait venir des cèdres », parce que le cèdre, c'est spectaculaire. Le pin maritime est beaucoup moins spectaculaire. Par contre, c'était certainement un bois qui était beaucoup plus utilisé, et qui l'est en fait. Quand on fait les analyses aujourd'hui archéobotaniques, on se rend compte que c'était le bois de base.
Et alors, on a parlé des échanges de la Basse-Égypte avec la Méditerranée, mais alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi des échanges au sud de l'Égypte, avec la Nubie et avec d'autres peuples africains?
Alors, il y a des échanges qu'on connaît de mieux en mieux. Alors, on les connaît beaucoup bien pour la Méditerranée. Pourquoi? Parce que la Méditerranée, il nous a fallu, on a deux siècles d'archéologie derrière nous, c'est-à-dire depuis deux siècles, on documente la présence égyptienne en Méditerranée. Côté Soudan ou côté Sahara, c'est beaucoup plus difficile parce que nous n'avons pas ce recul archéologique. Le Soudan, on a une archéologie importante depuis une cinquantaine d'années à peine. Mmh. Donc forcément, la qualité des données que nous avons n'est pas du tout de la même nature. Ce à partir de quoi nous ne devons tirer absolument aucune conclusion. Parce que c'est simplement un biais qui est lié à la manière dont la géographie de la recherche s'est construite. Pour venir maintenant à votre question précisément, quels sont les produits du Sud ? On a parlé de l'or. Il y a un autre produit qui est absolument fondamental, qui vient du Sud, c'est le cuir.
Et le cuir qui vient aussi, en particulier du Sud ou de Libye ?
Alors, qui va venir des éleveurs de bétail. Donc, il va venir de Libye et qui va venir aussi des éleveurs pasteurs du Soudan. Alors, le cuir, on a tendance un peu à le banaliser, mais en fait, le cuir, c'est un produit qui joue le rôle des matières plastiques dans nos sociétés. Pour les vêtements, pour les pièces mécaniques. Si vous voulez faire des chars de guerre, il vous faut absolument du cuir. Et la civilisation égyptienne, pour le cuir, dépend pour beaucoup de ces pasteurs éleveurs de bétail. J'insiste bien, de bétail, pas d'ovin.
Donc on imagine effectivement que ces échanges étaient extrêmement importants et que l'archéologie devrait nous permettre, dans les prochaines décennies, d'en savoir un petit peu plus sur la réalité de ces échanges.
Ça commence aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est sur une discipline qui va très profondément se transformer dans les années prochaines, dans les décennies qui viennent, sous l'effet d'une archéologie qui est de plus en plus précise, de plus en plus aidée par des sciences dures, et je dirais qui est en train de modifier sa géographie aussi. C'est-à-dire que les aires, notamment l'océan Indien, les liens avec la mer Rouge, qui jusque-là étaient très très peu explorés, maintenant commencent à l'être beaucoup. La connexion entre l'Éthiopie et la vallée du Nil, qui est encore une zone grise, là aussi nous attendons des données importantes. Donc tout ça est en train de bouger à grande vitesse et c'est une chose extrêmement stimulante pour les chercheurs.
Tout un champ d'exploration en cours. Alors on arrive presque au terme de cette émission, mais ce qu'on comprend bien, Damien Agut-Laborder, c'est que l'Égypte pharaonique, isolée du reste du monde par les déserts, est peuplée d'une population ethniquement homogène, c'est un mythe.
C'est un mythe. Enfin, elle est isolée par les déserts, c'est une réalité. Mais les déserts, ça se traverse très bien. Moi, je travaille dans le désert. Vous voyez tout le temps des gens passer en voiture, à pied, dans les zones désertiques. Donc, les déserts, c'est une représentation que nous avons du désert, mais le désert est un lieu de circulation. Quant à l'homogénéité ethnique, elle est nécessairement un mythe, puisque nous sommes, comme je vous le rappelais au début de l'émission, entre le monde méditerranéen, le monde africain, le monde libyen et le Proche-Orient.
Mais pourtant, est-ce que les pharaons ne cessent pas d'assurer qu'ils protègent les frontières du pays ? Est-ce qu'il n'y a pas cette idée d'une population et d'un pays hermétique ?
Ça, c'est un discours politique. Mmh. Voilà, c'est un discours.
Mais ce discours est tenu, en l'occurrence.
C'est un discours qui est tenu par le pouvoir. Mmh. À certains moments de son histoire, il ne le tient pas sur toute la durée, il le tient de manière très précise au deuxième millénaire en particulier, où il repousse les neuf arcs, les ennemis de l'Égypte. Mais c'est une phase de l'histoire égyptienne et de surcroît, c'est un discours du pouvoir. Ils ne sont pas obligés de le tenir pour vrai.
On arrive vraiment au terme de cette émission cette fois. Un dernier mot peut-être, un mot de conclusion, Damien Agut-Laborder, sur cette économie de l'Égypte antique sur laquelle, comme vous le disiez, on devrait avoir de plus en plus d'informations dans les années qui viennent.
Un mot de conclusion, c'est qu'il faut envisager l'économie égyptienne maintenant dans sa profondeur. C'est-à-dire se dire que nous avoir parfaitement conscience que nous avons utilisé jusqu'ici un jeu de sources très passionnante mais très réduite, et qu'il faut profiter de l'extraordinaire générosité de l'archéologie égyptienne qui nous permet d'accéder à ces restes organiques pour compléter la vision que nous avons et ainsi pouvoir documenter l'économie pour des périodes très anciennes.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous nous dites aujourd'hui qu'après la privatisation des autoroutes, la majorité s'interroge sur la possibilité de privatiser les routes nationales.
Absolument. Dans le cadre de l'examen de la loi mobilité à l'Assemblée nationale, un amendement a été adopté visant, je cite, à faire porter par une délégation de services publics la création ou l'aménagement d'infrastructures à gabarit routier afin de faciliter, sécuriser ou fluidifier l'accès à une autoroute ou aux itinéraires qui la prolongent. comprendre, donner aux sociétés d'autoroutes la prise en charge des routes nationales adossées au réseau autoroutier existant. Mais cet amendement est bien moins anecdotique qu'il n'y paraît, car il signe en réalité les prémices d'une privatisation en bonne et due forme du réseau de routes nationales.
Pour ses partisans, cette évolution vise donc à améliorer l'entretien des routes nationales, parfois en très mauvais état.
Mais oui, l'État commence par se désengager d'une de ses missions pour ensuite la supprimer ou la brader à des intérêts privés. On connaissait déjà ce raisonnement dans le secteur ferroviaire où l'on a commencé par réduire le nombre de trains sur les petites lignes pour ensuite les supprimer totalement, arguant de la baisse de leur fréquentation. Eh bien, c'est ici la même logique, avec une part non négligeable du réseau routier abandonné pour des raisons de rigueur budgétaire. Les sociétés privées ont eu beau jeu de se présenter comme les sauveurs providentiels de nos routes nationales, ce qu'ils se sont donc empressés de faire. Comme l'explique le sénateur Hervé Maurey, interrogé par France Info, les sociétés d'autoroutes partent du constat qu'aujourd'hui, l'état des voiries concédées n'est pas satisfaisant. Elles se proposent donc de récupérer ces sections en échange d'une prolongation de la durée des concessions. De vrais philanthropes en somme.
Les sociétés d'autoroutes mettent également en avant un argument budgétaire et financier.
Mais oui, dans leur immense mansuétude, les sociétés d'autoroutes n'ont pas manqué de signaler qu'une telle prise de contrôle des tronçons restants serait une excellente affaire pour le contribuable français. Une note interne de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes, ou ASFA, explique ainsi que le transfert de tout ou partie du réseau national est de nature à provoquer un choc budgétaire, soulageant le budget de l'État et pérennisant les capacités d'entretien du réseau. Non content de prendre à leur charge l'entretien de nos routes quotidiennes, les acteurs privés nous permettraient ainsi de réaliser de belles économies. Le président de l'ASFA a même déclaré chevaleresque qu'à chaque fois que l'État déciderait d'aménager son réseau de routes nationales, les sociétés d'autoroutes seraient là, nous voilà rassurés.
Cette opération ne se ferait pourtant pas sans contrepartie, Arjuna.
Non, s'il ne s'agirait pas dans un premier temps d'une privatisation stricto sensu, puisque les sociétés d'autoroutes obtiendraient en contrepartie de cet entretien une hausse des tarifs des péages routiers, ce qui reviendrait à faire payer l'entretien des routes nationales par les usagers des autoroutes. Difficile en effet d'imaginer une nouvelle prolongation de la durée des concessions alors qu'elles ont déjà été renouvelées en 2015 et que la Cour des comptes a exprimé son opposition à une telle action. Pas d'inquiétude pour autant, le journal Marianne estime que les sociétés d'autoroutes pourraient se satisfaire des travaux à réaliser sur leurs morceaux de route nationale. Rappelons qu'Eiffage et Vinci sont non seulement des exploitants d'autoroutes, mais aussi et peut-être surtout des entreprises du BTP. Aujourd'hui, près de la moitié des contrats passés par les sociétés concessionnaires d'Eiffage le sont avec des filiales d'Eiffage. Un chiffre qui monte à près de 80% quand on se tourne vers Vinci, de véritables humanistes on vous dit.
Avec le groupe britannique Everything Everything et leur titre Zero Pharaoh. Merci beaucoup Damien Gutlaborder de nous avoir accompagnés aujourd'hui sur les rives du Nil ancien. Demain, cap sur la Grèce antique. On se demandera si la civilisation grecque a inventé l'économie moderne. D'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Take your pharaoh, put him in the black sock. Why don't you
me the girl.